VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ivoiriens en grève depuis le 9 janvier, notamment pour des augmentations de salaire et des amendements de la réforme des retraites adoptée en 2012, devaient mettre fin à leur mouvement après avoir trouvé des points d'accord avec le gouvernement. Nous avons obtenu satisfaction sur 5 des 6 points de revendication, a déclaré ce vendredi à l'AFP Théodore Nyanéazadi, président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires. Monsieur Nyanéazadi, qui a eu des consultations hier avec le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, fait état d'avancées inespérées dans les discussions, notamment sur la question des retraites. Les grévistes sont particulièrement opposés à la réforme des retraites qui réduit les pensions de 30 à 50% alors que les cotisations augmentent et que l'âge du départ à la retraite passe de 55 à 60 ans et même 65 pour les grades les plus élevés. Les syndicats de fonctionnaires doivent se réunir aujourd'hui à Abidjan. La tendance est pour la reprise du travail dès lundi prochain, souligne Théodore Nyanéazadi. Au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont arrêté 3 personnes en relation avec l'attentat suicide qui a fait au moins 77 morts le 18 janvier dans un camp militaire de Gao, dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre malien de la Sécurité, Salif Traoré, d'après l'agence Reuters. Al-Mourabitoune, le groupe de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, a déclaré que 5 de ses combattants avaient lancé cette attaque suicide qui, outre les morts, a fait plus de 100 blessés. Le ministre malien n'a pas donné de précision sur les arrestations. Gambie, le nouveau président gambien Adama Barrow est à Banjul. Il y est arrivé hier en provenance du Sénégal où il séjournait depuis le 15 janvier. Le président Barrow a été acclamé par une foule en liesse à son retour au pays natal. Abdourahmane Diaw.
Adama Barrow a été transporté par un avion militaire sénégalais portant l'emblème de la CEDEAO. Il était accompagné par ses 2 épouses et plusieurs de ses enfants. À l'aéroport de Banjul, une foule enthousiaste lui a réservé un accueil triomphal avec des groupes de danseurs et de joueurs de tambour. Des militaires sénégalais et nigérians lourdement armés et un détachement de l'armée gambienne étaient postés aux endroits stratégiques de la capitale. Accueilli au Sénégal depuis le 15 janvier, M. Barrow n'était pas apparu en public depuis sa prestation de serment à Dakar. Sa victoire à l'élection présidentielle a été suivie par un revirement spectaculaire de Yahya Jammeh. La CEDEAO a dû lancer une opération militaire doublée d'une offensive diplomatique pour forcer l'ancien homme fort de Banjul à quitter le pays pour un exil doré en Guinée équatoriale. Hier, son ancien ministre de l'Intérieur a été arrêté en Suisse après une plainte pour torture d'une ONG.
En Somalie, des combattants du groupe islamiste somalien Al-Shabaab ont attaqué aujourd'hui une base de la MISOM, la force de l'Union africaine déployée sur place. Ils affirment avoir tué des dizaines de soldats kenyans dans cette position située dans le sud du pays, allégation démentie par l'armée kenyane. D'après un porte-parole des Shabaab, 66 soldats kenyans auraient péri pendant l'attaque qui s'est déroulée à Kulbio, ville proche de la frontière du Kenya. Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie qui commence lundi prochain. L'éventuelle réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine devrait dominer les débats à la Réunion. Le conflit au Soudan du Sud et l'élection du président de la Commission de l'Union africaine figurent aussi parmi les autres priorités du rendez-vous continental. Idrissa Seydoudia.
Le retour du Maroc demeure un sujet clivant au sein de l'Union africaine. L'Algérie y est notamment hostile. Rabat avait quitté l'OUA, ancêtre de l'UA, en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, ex-colonie espagnole que Rabat contrôle et considère comme partie intégrante de son territoire. Autre pomme de discorde, la Cour pénale internationale, la CPI, le tribunal de La Haye pourrait susciter de nouveaux débats animés. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont décidé en 2016 de quitter la Cour, l'accusant de ne viser que des pays africains. Également au cœur de ce sommet, l'élection du successeur de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma à la Commission de l'Union africaine. Cette élection devait avoir lieu en juillet, mais avait finalement été reportée. De nombreux membres de l'organisation l'organisation estimant que les prétendants manquaient d'envergure. Plusieurs crises sur le continent seront également à l'ordre du jour du sommet, comme le chaos en Libye, les groupes djihadistes au Mali, en Somalie et au Nigeria, ou encore les tensions politiques en République démocratique du Congo. Le Soudan du Sud, où la guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés depuis décembre 2013, devrait de nouveau être au cœur des préoccupations.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui la première ministre britannique Theresa May pour évoquer les liens commerciaux post-Brexit et donner une impulsion différente à la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La chef du gouvernement britannique sera le premier dirigeant étranger reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche par le nouveau président républicain. Les deux dirigeants s'exprimeront lors d'une conférence de presse commune à 13h temps universel, qui sera aussi la première de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Galvanisés par le milliardaire républicain, les militants anti-avortement américains entendent faire une démonstration de force en défilant ce vendredi à Washington dans un nouveau contexte politique qui leur est favorable. Des manifestants venus de tous les coins des États-Unis marcheront entre la Maison-Blanche et la Cour suprême, deux institutions dont ils attendent beaucoup. Cette marche pour la vie se déroulera 6 jours après la marche des femmes qui a rassemblé dans la capitale fédérale américaine un demi-million de femmes souhaitant défendre leur liberté fondamentale. Et puis, tension entre les États-Unis et le Mexique. À l'origine, la polémique sur la construction d'un mur à la frontière commune à l'initiative du président Donald Trump qui veut imposer les frais de construction aux pays voisins. Son homologue mexicain Enrique Peña Nieto a annulé une rencontre prévue jeudi à Washington. Pour analyse, Eric Manirakiza, un professeur du Centre des études africaines au département des sciences politiques à l'Université de Floride, Leonardo Villalon.
Comme vous le savez, le président Trump est arrivé au pouvoir il y a à peine une semaine. Il a commencé tout de suite à essayer de mettre en œuvre certaines de ses promesses électorales, y compris certaines promesses qu'on pensait impossibles à l'époque, dont la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Le président mexicain, évidemment, ne peut pas accepter cela, surtout l'insistance du président Trump que le Mexique va payer pour ce mur-là.
Justement, le président Trump a tweeté que si le Mexique ne va pas payer, pas question de rencontre avec le président mexicain. Dans la foulée, le président mexicain a annulé sa visite à Washington. Où est-ce que ça va mener les deux pays?
Écoutez, je crois que le président mexicain n'avait pas le choix compte tenu de sa réalité politique au Mexique. Nous voyons qu'il avait quand même déjà essayé plusieurs fois de trouver une façon d'avoir un dialogue avec Trump. En tant que candidat, ils se sont réunis. À la suite de cette réunion qui a été un désastre politique pour le président mexicain, ils avaient deux versions différentes de ce qui a eu lieu pendant la conversation. Là, cette fois-ci, avec le président, en insistant qu'il a signé l'ordre exécutif et insiste que le Mexique va payer, le président mexicain n'avait pas le choix de dire « mais non, le Mexique ne peut pas se permettre d'être traité de cette manière ». Et c'est normal quand même.
Et qui perd, qui gagne
C'est pas clair qui va perdre et gagner. En fait, évidemment, je crois que dans le monde où nous habitons, tous les pays bénéficient d'une bonne relation avec leurs voisins. C'est clair que les États-Unis et le Mexique ont bénéficié du NAFTA, de l'accord de commerce entre les deux pays. Bien sûr, il y a eu des coûts de deux côtés. Mais si les États-Unis pensent qu'ils peuvent dicter les conditions d'une relation avec le Mexique, que ce soit tout à fait au profit américain et au coût du Mexique, je crois qu'on va avoir des surprises assez désagréables aux États-Unis, puisqu'on dépend aussi beaucoup de la main-d'œuvre mexicaine, du commerce avec le Mexique pour beaucoup d'emplois aux États-Unis.
Si Trump mettait en exécution ces menaces, est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis?
Je ne crois pas du tout. Personnellement, évidemment, je crois que Trump compte sur le fait qu'il va pouvoir forcer les Mexicains à accepter ses conditions et ses termes. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce sera le cas. Et s'il essaie de forcer la situation, le Mexique résiste, je crois que ça ne sera pas aux intérêts des États-Unis. Évidemment, c'est très important pour les États-Unis d'avoir un Mexique prospère et un Mexique stable. Les États-Unis dépendent beaucoup de notre relation avec le Mexique, c'est-à-dire une frontière très importante pour les États-Unis. Donc, je crois qu'on a tout l'intérêt pour avoir un dialogue constructif pour les deux pays et pas ce type de manque de diplomatie et de menaces de la part d'un président nouveau arrivé au pouvoir.
Leonardo Villalon en Floride. Et pour terminer, Coupe d'Afrique des Nations repose ce vendredi pour les équipes encore dans la course. Les quarts de finale commencent demain à Libreville, les talons du Burkina Faso face aux aigles de Carthage de Tunisie. Et le même jour, le Sénégal affrontera le Cameroun dans le duel des Lions.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.